12h08, parlons santé, le magazine de la rédaction avec nous aujourd'hui, le docteur Nicole. Bonjour docteur.
Bonjour monsieur.
Et le docteur Casimir Musinski. Bonjour Casimir.
Bonjour les auditeurs.
Alors rapidement.
Alors donc on est heureux de pouvoir être, à l'initiative de cette émission sur les pesticides et produits qui nous entourent quotidiennement et qui sont source de nombreuses affections ou dysfonctionnements de notre organisme. Le groupe Pasteur Mutualité, avec la Mutuelle 50, c'est-à-dire la Mutuelle des professionnels de santé de la Manche, est heureuse de pouvoir participer à cette émission et d'informer les auditeurs de CFM. Merci.
Je vous en prie, Casimir. On va parler aujourd'hui des risques sur notre santé d'une exposition prolongée aux pesticides. On va dans un premier temps définir ce qu'est un pesticide, leur mode d'action sur la nature, les effets sur l'homme. Quels sont les risques d'une exposition prolongée? Quelles sont les personnes les plus exposées? Comment s'en prévenir? Quel type de maladie ça peut déclencher? Beaucoup de choses à avoir en 45-50 minutes. Alors, au niveau pesticides, j'en ai dénombré 4. J'en oublie sûrement les herbicides, les insecticides, les fongicides et les raticides. Quel est le rôle de chacun, leur dangerosité et leur mode d'action, docteur?
Excusez-moi, je vais peut-être me présenter.
Oui, allez-y, présentez-vous.
Alors, donc, je suis le docteur Nicole, je suis
Michel pour les intimes,
membre de l'association Alerte Médicale sur les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Je suis en retraite depuis 15 ans et depuis 15 ans, de façon très soutenue, je milite pour former le personnel médical, me battre au niveau des instances officielles pour faire évoluer les réglementations. Et je m'intéresse particulièrement donc aux pesticides, aux perturbateurs endocriniens, après avoir été pédiatre et ayant travaillé dans la prévention. Donc j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, j'ai continué dans la prévention, mais non plus dans la prévention psycho-médico-sociale, mais dans la prévention de la pollution chimique et de son impact sur les personnes et les enfants en particulier. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce que c'est que les pesticides? Les pesticides, ce sont des substances chimiques qui servent à tuer. Le suffixe « icide », ça vient du latin « saedere », qui veut dire « tuer ». Si vous voulez utiliser un langage politiquement correct, comme font les producteurs de pesticides, ils vont dire phytosanitaire, c'est-à-dire que phyto c'est les plantes, sanitaire c'est la santé, c'est pour permettre aux plantes d'être en bonne santé. Si on va un peu plus loin, ils diront phytopharmaceutique parce qu'ils diront c'est comme des médicaments pharmaceutiques.
Mais donc c'est une question de langage.
Oui, c'est vraiment une façon d'utiliser le langage qui trompe.
Parce que embrouiller les gens, quoi.
Oui. Le but, c'est quand même de tuer. Et quand vous regardez l'utilisation des pesticides, elle est tout à fait liée à la monoculture et à la culture intensive. Que ça soit des vergers, des céréales ou n'importe quel autre.
Les vignes.
Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce que c'est que les pesticides? Il y en a plusieurs catégories. Il y a les herbicides, c'est-à-dire les désherbants. Le plus célèbre, vous le connaissez tous, c'est le Roundup. Mais il a été utilisé aussi au Vietnam comme défoliant et c'est l'agent orange. Il semblerait qu'actuellement, il soit aussi utilisé au Proche-Orient, je crois en Syrie, à des fins qui ne sont pas des fins agricoles. Il y a les fongicides. Les fongicides, ils attaquent les champignons. Ils tuent les champignons. Les insecticides, alors là, les insecticides, comme son nom l'indique, ils tuent les insectes. Les principaux insecticides dans l'histoire, ça a été le DDT qui a été utilisé très longtemps et qui est hyper toxique, et la chlordécone qui a été utilisée aux Antilles pour lutter contre le charançon, qui est un insecte qui attaquait les bananiers. Aujourd'hui, ils sont remplacés, ces DDT, chlordécone, par les néonicotinoïdes, dont tout le monde a entendu parler avec la fameuse loi du plomb qui veut réintroduire l'acétamipride. Donc ces néonicotinoïdes, on les appelle les tueurs d'insectes. Voilà. Et il y a à côté tueurs d'abeilles, pardon. À côté de ces trois catégories, désherbants, fongicides, insecticides, il y a les biocides. C'est ceux qui peuvent vous intéresser, vous, directement. Ce sont les désinfectants, ce qui sert à tuer les rongeurs, les rodenticides, les insecticides domestiques que vous utilisez avec une bombe. Ça, ça devrait être interdit. Ce qui sert au traitement du bois, qu'on appelle le lindane, qui est un très vieil organochloré et qui est très toxique et qu'on retrouve partout dans l'air en France. Et on se demande si ce n'est pas lié aux émissions à partir des charpentes. Et il y a les antiparasitaires qui sont utilisés chez les animaux domestiques à usage vétérinaire. Voilà. Donc ça, ce sont les catégories. Après, on peut parler de leur présentation. Un pesticide, c'est une substance active, une molécule active, insecticide, herbicide, et tout un tas de coformulants qui vont avec.
Des coformulants, est-ce que vous pouvez...
Oui, alors la substance active, c'est la molécule qui fait à peu près 10 ou 20% du produit, et à côté, il y a 80% de coformulants. Donc coformulants, ils complètent la formule. Ce sont des agents pénétrants, c'est-à-dire qu'ils servent à casser les membranes des cellules des plantes pour que ça rentre mieux dedans. Ce sont des agents solvants pour rendre le produit plus liquide, on veut dire. Des agents tensioactifs, comme il y a dans les détergents. Et des produits anti-mousse, parce qu'il y a les pesticides, ça fait de la mousse dans les pulvérisateurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle les coformulants. Et c'est très important parce que leur action est sous-évaluée. Dernier point, dernier type de molécules, ce sont les métabolites. Les métabolites, ce sont les produits de dégradation, de décomposition des pesticides. Les pesticides se décomposent dans l'air sous l'effet des ultraviolets, du soleil. Ils se décomposent dans l'eau. Ce qu'on appelle l'hydrolyse, il se décompose dans le sol sous l'action des enzymes. Et ça produit des métabolites. Et ces métabolites sont très nombreux. On en dénombre une vingtaine pour une seule substance. Et ce sont ces métabolites qui persistent le plus longtemps, puisque plus on avance dans la chaîne de dégradation, plus on est au bout de l'impasse, on ne peut pas aller plus loin. Alors que la substance initiale,
Substance initiale a une durée de vie.
Oui.
Et le métabolite, lui, ne.
Ben, le métabolite aussi, ils ont des durées de vie. Oui. Mais vous avez le dernier, par exemple, dans les PFAS. On sait que le TFA, l'acide trifluoroacétique, et on le retrouve dans 97% des eaux parce que c'est une toute petite molécule. Elle ne se dégrade plus. Mmh. C'est la dernière en bout de chaîne. Hein. C'est celle-là qui va persister le plus longtemps.
Ce qu'on appelle les polluants éternels.
Voilà. Mmh. Plus. Vous êtes au bout de la chaîne, plus vous êtes, vous n'allez pas aller plus loin, quoi. Et donc avant, dans l'eau par exemple, dans l'eau qui est distribuée, on analysait surtout les pesticides. Et depuis une quinzaine d'années qu'on s'intéresse aux métabolites, c'est l'avalanche, parce qu'il y en a des quantités. Par exemple, la limite réglementaire pour l'eau, c'est 0,1 microgramme par litre. Mmh.
Microgramme, c'est
un millième de gramme. Mmh. Non, un millionième.
Un millionième.
Pardon. Eh bien, dans la banlieue de Caen, à Rau, par exemple, il y a un captage qui est encore en action où il y a 5,7 microgrammes par litre. C'est-à-dire 50 fois la dose réglementaire.
Et il y avait la même problématique à la glacerie. Hein. Dans le nord du département.
Voilà donc pour situer ce que sont les pesticides. Hein. Alors les pesticides, ce qui va nous intéresser, il y a deux axes. Ils ont un impact sur la biodiversité. Plus personne ne met en cause la chute du nombre d'insectes. Il n'y en a plus sur les pare-brises, sur les pare-chocs. Les papillons, on sait qu'il n'y en a quasiment plus. Les oiseaux, il y en a toujours en nombre, mais la variété, surtout des petits oiseaux,
c'est-à-dire que plus l'espèce est plus petite, plus elle est impactée par...
Pas nécessairement.
Non.
Vous avez par exemple, s'il y a des chasseurs ici, là, qui écoutent, ben la perdrix, le perdreau, est une espèce extrêmement sensible. Moi-même, je mangeais des perdreaux il y a 30 ans, 30 ou 40 ans, aujourd'hui, et j'ai plein de chasseurs dans ma famille, moi je ne suis pas chasseur, mais aujourd'hui, plus personne n'a de perdreaux. Mmh. Alors ça, c'est la biodiversité. Et l'autre aspect, ce sont les effets sur la santé des animaux, on a vu, mais aussi humaines. Et là, on sait que nous sommes contaminés, que les bébés, on dit qu'ils sont pré-pollués parce qu'ils ont été exposés pendant la grossesse, mais que si on prend des enfants, par exemple, tout de suite, il y a un travail qui est fait dans Charente, dans la plaine d'Aunis, si on analyse les cheveux des enfants, on trouve une quinzaine de pesticides dans les cheveux. Et quand on parle des cheveux, il s'agit de contamination ancienne, prolongée, et pas de celle qui a eu lieu avant-hier. Voilà.
Et pour les pesticides, quelle maladie un pesticide peut provoquer chez l'homme ?
Alors, je vais d'abord parler des insecticides, parce que c'est ce qui est le mieux connu. Les insecticides s'attaquent au système nerveux des insectes. Mmh. Et l'homme est comme les... a des similitudes avec les insectes au niveau de, d'un certain nombre de molécules qui circulent dans son cerveau. On sait aussi qu'on retrouve des pesticides dans le liquide céphalo-rachidien, c'est-à-dire le liquide qui entoure le cerveau. Donc le cerveau est très menacé. Et les pathologies les plus inquiétantes chez les agriculteurs, principalement, c'est la maladie de Parkinson. Mmh. Ça, c'est vraiment extrêmement fort. Donc, les maladies neurologiques, il y a quelques soupçons sur la maladie d'Alzheimer ou la sclérose latérale amyotrophique. Des choses un petit peu plus précises sur les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant, c'est-à-dire toutes les hyperactivités, troubles de l'attention, toujours en lien avec les insecticides. Les autres pathologies, ce sont les pathologies du sang, les leucémies, donc les cancers du sang, les myélomes, cancer de la moelle, les lymphomes, cancer des ganglions. Et là, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que les cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs, ça vit 100 jours ou 150 jours et ça meurt. Et ça se
renouvelle.
Et à chaque fois que ça se renouvelle, la toxicité par rapport à cette nouvelle division cellulaire toxicité au niveau de l'ADN va être sollicitée. Et donc, plus vous allez avoir de multiplication au cours de votre vie, plus vous êtes en risque d'avoir un cancer sanguin. Donc, ce sont les pathologies les plus importantes. Ce sont la maladie de Parkinson et puis les cancers du sang, les hémopathies, comme on dit. Et voilà. Les leucémies, les lymphomes qui ont beaucoup, beaucoup augmenté ces derniers temps.
Est-ce qu'on voit une augmentation avec l'utilisation prolongée des pesticides et plus de cancers ou plus de maladies liées à l'utilisation des pesticides ? Est-ce qu'on a des chiffres ?
Il y a toute une zone qui est une zone inconnue, c'est-à-dire qu'on a les maladies qui sont reconnues professionnelles. Et elles ne seront connues que depuis 2015, c'est-à-dire 10 ans, comme je vous disais, le Parkinson. Mais il y a un certain nombre de maladies qui ne sont pas reconnues, mais dont il existe un lien. Et il est très important pour tous les médecins de les déclarer, car plus il y aura de déclarations, plus un jour ou l'autre, elles seront reconnues comme maladies professionnelles. Savoir s'il y en a plus... Je crois que ça dépend si on les cherche ou si on ne les cherche pas. Mmh. Il y a ce qui est absolument certain, les agriculteurs sont les plus touchés, mais il y a une autocensure. Les gens sont dans le déni, c'est-à-dire qu'ils ont exploité ça, ils ont utilisé ça toute leur vie pour essayer d'avoir des meilleurs rendements, et ils disent ce sont des produits homologués, ce n'est pas possible, ce n'est pas de chance. Il y a une sous-déclaration qui est reconnu par la MSA, par tout le monde, que les agriculteurs ne déclarent pas autant les maladies que nécessaire.
12h23, on marque une courte pause et on revient très vite sur CFM.
CFM, moi je n'utilise pas les matchs.
12h28 sur CFM, parlons santé, l'émission de la rédaction avec la mutuelle des professionnels de santé, groupe Pasteur Mutualité. On parlait avec le docteur Nicole de déni chez les agriculteurs qui préfèrent utiliser les pesticides plutôt que de dire, plutôt que de faire attention à leur santé. Pourquoi exactement ils préfèrent?
Les agriculteurs sont prisonniers d'un système. Soit ils sont obligés de produire beaucoup pour gagner leur vie, ou alors quand on a affaire à des très très grandes exploitations, ils cherchent à engranger le maximum d'argent, et là ils crèvent les plafonds, quoi qu'ils en disent. Et donc ils se sont basés sur un système extrêmement productiviste, où les gens qui vendent les pesticides, c'est eux qui les informent, qui leur donnent les conseils. Et il y a une confiance totale, d'autant que les produits ont été homologués. Et donc, ils ne peuvent pas imaginer que ce qu'ils ont fait puisse être mauvais pour leur propre santé. Ça casse complètement leur système de pensée. Et alors, juste, on a parlé tout à l'heure des problèmes de langage sur les phytosanitaires et phytopharmaceutiques. Mmh. Un autre problème de langage, vous avez deux types d'agriculture. Vous avez l'agriculture qu'on dit conventionnelle et l'agriculture qu'on dit organique. Ça veut dire quoi? Conventionnel, ça veut dire que vous utilisez des pesticides. Organique, ça veut dire c'est bio. C'est comme ça dans le langage scientifique et technocratique. Mais quand vous dites que l'agriculture qui utilise des pesticides est la conventionnelle, qui a dit que c'était la convention d'utiliser les pesticides? Moi, je dis agriculture chimique, agriculture pesticidée et agriculture organique biologique.
Et l'agriculture bio, est-ce que ça existe vraiment? Parce que c'est assez volatile. Si dans une parcelle, un agriculteur répand quelque chose, un produit, un pesticide, est-ce que ça va pas aller sur la parcelle du petit camarade?
Alors effectivement, il y a des problèmes. En particulier, il y a une substance, un désherbant qui s'appelle le prosulfocarbe, qui est extrêmement volatile, si bien que l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité de l'Environnement et de l'Alimentation, a rédigé plusieurs avis demandant de ne pas épandre à moins de telle distance d'une autre culture, et c'est-à-dire 1 ou 2 kilomètres. C'est extrêmement volatile. Et par exemple, le folpel, qui est un fongicide utilisé en Nouvelle-Aquitaine, on le retrouve dans l'air à Poitiers, c'est-à-dire 200 km plus loin. Donc, on ne peut pas dire que l'agriculture bio soit complètement protégée, surtout qu'on a vu qu'avec l'acétamipride, que M. Duplon veut réintroduire, on la retrouve dans l'eau de pluie. Donc, effectivement, tout le monde est arrosé un petit peu. Mais il y en a beaucoup, beaucoup moins que dans celle qui est traitée directement, bien sûr. Donc, il faut effectivement, l'alimentation bio est beaucoup, beaucoup moins contaminée. C'est sans comparaison.
Oui, je voulais parler, par exemple, des problèmes d'école en Aquitaine, où ils font du vin et on épand des pesticides et on les pulvérise.
Il y a une distance des écoles aussi.
Énormément le voisinage.
Oui, on s'est battu justement pour ça, parce que notre association, un de ses premiers chevaux de bataille, ça a été un cluster, c'est-à-dire une augmentation localisée de cancers qui étaient des tumeurs cérébrales et des leucémies à Prégnac, dans une commune de Gironde de viticulture. Et on s'est battu près du ministère de la Santé, de l'ANSES, pour obtenir des études pour essayer de démontrer qu'il y avait un lien entre la proximité des vignes et puis ces deux types de cancers dont on savait par les études scientifiques qu'il y avait un lien plausible. C'était pas du tout une vue de l'esprit. Et alors après 10 années... peut-être un petit peu moins, et une fortune pour payer les études, nous avons appris récemment par Santé publique France, l'ANSES et la Direction générale de la Santé que plus on est proche d'une vigne traitée, plus on risque d'être contaminé. Mmh. Ça, c'est un scoop très intéressant, on ne l'aurait jamais imaginé. et que plus la surface agricole utile, c'est-à-dire la densité de terre agricole sur une commune est élevée, plus le risque, alors là, on parle d'une pathologie, le risque de leucémie infantile est augmenté. Alors, faiblement, mais augmenté quand même. Donc là, on a un lien entre une pathologie, les leucémies, et la proximité d'un traitement pesticide. Mmh. Pour les écoles, effectivement, c'est un sujet très important. Le Monde a produit une carte où il parle de la pression en pesticides près des écoles. Donc, il montre les écoles de France en fonction des surfaces agricoles, de l'intensité des traitements et de la proximité des écoles, si les écoles sont exposées, si les écoliers sont exposés. Et là, on voit qu'il y a des endroits où ça a commencé assez inquiétant. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les zones de non-traitement que l'on demande, elles sont réduites à 5 mètres, voire 3 mètres quand il y a des chartes. C'est-à-dire que c'est ridicule. Aujourd'hui, toutes les études montrent que c'est plusieurs centaines de mètres. Et alors, les syndicats agricoles s'opposent totalement à ces zones de non-traitement, parce que, tout le moins, sauf si elles ne font que 3 mètres, parce qu'ils pensent que ça leur entraîne des pertes de
production, de vendation,
s'ils mettaient 50 mètres. Mais ils nous font croire que s'ils mettaient 50 mètres, ça serait 50 mètres sans culture. Non, ce qu'on demande, c'est que ces 50 mètres soient en culture bio. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un rendement à 100%, ils auront un rendement à 70%. Mmh. Donc, ils vont perdre 30% sur une bande. 30% seulement.
Ils peuvent passer, les cultivateurs, des pesticides. Certains vous disent que non.
Certains y arrivent. Hein. Mmh. Certains y arrivent. Alors, si vous voulez, par exemple, regarder la production de betteraves. Ça a été un sujet très important pour les néonicotinoïdes. On nous a dit que l'acétamipride était absolument indispensable et que les néonicotinoïdes étaient absolument indispensables. Depuis 3 ans qu'ils ne sont pas utilisés, et en particulier l'année dernière, après cette histoire de jaunisse qui avait touché de façon très hétérogène les cultures de betteraves, cette année, les rendements ont été bons, ont été en général très bons. Hein. Et donc, s'il y a il peut y avoir des endroits où il y a de la jaunisse, mais ce sont des endroits ponctuels, localisés, c'est pas toute la production. Et donc, là-dessus, effectivement, il pourrait y avoir des compensations, des assurances. De même que pour les bandes non traitées, il pourrait y avoir des paiements. Ça existe, le paiement pour des services environnementaux, c'est prévu, ça. Mmh. Hein. De même que pour la protection des périmètres d'eau.
Et ça nous coûte moins cher que la santé, que le coût d'un traitement d'une leucémie ou d'une maladie de Parkinson.
Oui, ça, premièrement. Et deuxièmement, le traitement de l'eau, qui coûte une fortune et qui est très incomplet. Et que si aujourd'hui, on veut traiter tous les métabolites, on veut traiter aussi tous les produits qui viennent des plastiques, les bisphénols et tout ça, ce sont des fortunes, parce que ça fait appel à des mécanismes très chers, qu'on ne produit même pas en France, et qui sont très consommateurs d'énergie. Et si vous regardez votre facture
d'eau,
cette année, elles ont beaucoup augmenté, et ce n'est que le début, parce que le traitement de l'eau va coûter très très cher.
Est-ce qu'on ne ferme pas les yeux en se disant, on vaille que vaille, et puis on verra plus tard? Est-ce que ce n'est pas un problème politique qui ne regarde pas très très loin dans le temps?
Politique et financier.
Politique et financier. Bah oui, mais si ça coûte des milliards et des milliards à la fin, il faudra bien les payer.
Oui, on est toujours dans un système, on va dire, techno-solutionniste. On pense que par la technique ou l'ingénierie, on va résoudre tous les problèmes, alors qu'on ne les prend pas au niveau de la cause. Et effectivement, il vaudrait mieux changer de modèle agricole plutôt que de payer et des traitements pour les maladies, et des indemnisations pour les maladies professionnelles, et des traitements d'eau, parce que la facture est très élevée. Pas les chiffres en tête, mais c'est extrêmement important. Les traitements de l'eau, ça fait appel à des charbons actifs très différents et qu'on ne produit pas en France. Donc ça pose des problèmes de souveraineté. Ça fait appel à l'osmose inverse, qui a un système extrêmement coûteux, qui est efficace. Et bon. Voilà. Donc, où on en est sur les coûts, il faudrait effectivement que les agriculteurs soient encouragés à
diminuer, ne pas traiter ou à arrêter.
À la limite des habitations, au niveau des cours d'eau. Les cours d'eau, il ne devrait y avoir que des prairies naturelles le long des cours d'eau. Et voilà. Donc,
ici, on a vu dans la plaine de qui est autour de l'Essai, etc., que les carottes de créance qui étaient les mieux vendues en France dans les années 70 sont devenues des sources considérables de maladies liées au traitement de ces carottes, de ces maladies, et même des poireaux. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne sais pas trop. Il y a eu une étude réalisée par l'ANSES sur les pesticides dans l'air. Et on a choisi 3 sites en Normandie. On a choisi un site à Neuchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime. Site grande culture. Un village entouré de grandes cultures. On a choisi un site au chemin vert à Caen, en limite d'agglomération.
Et du périph.
Avec des grandes cultures à proximité. Et il y a eu un site à Créance. À Créance, on n'a pas trouvé dans l'air plus de pesticides qu'ailleurs. Peut-être surprenant, mais bon, c'est la réalité. On ne va pas dénier. Par contre, Neuchâtel-en-Bray, la grande culture, alors là, les herbicides, ça crève le plafond.
Mmh. Ouais, peut-être qu'il y a une plus grande surface aussi de traiter.
Oui, et puis ça entoure le village. Si vous avez la sonde au milieu du village et tout autour, par exemple à Caen, c'est un petit peu différent. Vous avez la sonde qui est au chemin vert, mais toute la partie sud ne produit pas de pesticides par rapport à cette sonde. C'est la partie nord ou nord-ouest. Et donc, il y a les vents aussi qui font... voilà, ça peut aussi jouer.
Hein, oui, bien sûr, oui, le vent. Et parce qu'à Créance, c'est la mer,
oui,
la mer, c'est
un peu plus de vent. Donc, à Créance, ce qui est valable, à mon avis, la seule chose qui est valable, c'est de mesurer les résidus dans les légumes. Et là, au niveau de la réglementation européenne, il y a une réglementation qui s'appelle la LMR, limite maximum de résidus. Pour faire simple, dans l'alimentation, ça se chiffre en milligrammes, les résidus. Quelques milligrammes. Dans l'eau, en microgrammes, c'est-à-dire 1000 fois moins, et dans l'air, en nanogrammes, 1000 fois moins. Tout en sachant qu'on respire beaucoup. 14 mètres cubes d'air, 14 000 litres d'air, et 2 litres d'eau qu'on ingère par jour. Si bien que l'air et l'eau, c'est à peu près pareil. On a 80% pour l'alimentation d'apport de pesticides, 10% pour l'air, et 10% pour l'eau. Je reviens aux limites maximum de résidus. Ils sont calculés pour chaque substance pesticide et rapportés à chaque légume ou chaque fruit. Donc on a une LMR, limite maximum de résidus, de tant de milligrammes pour les carottes, pour tel herbicide. Tant de milligrammes pour tel fongicide. Tant de Si bien que quand vous mangez une carotte, vous êtes confronté à avaler plusieurs types de résidus, de pesticides différents. Et ça, ce n'est jamais chiffré. C'est un problème important parce que il y a 2 façons de l'aborder. Soit vous les additionnez et vous faites une limite maximum de résidus global. C'est ce qu'on appelle un aspect cumulatif. C'est ce qu'on fait dans l'eau, parce que dans l'eau qui est distribuée pour les gens, la limite c'est 0,1 microgramme par litre. Mais si vous faites l'addition des pesticides, vous avez la limite c'est 0,5. Donc pour l'eau, on considère que le cumul compte. Pour les légumes et les fruits, non. On ne mesure que chaque chose séparément. Et alors que vous
chacun reste dans la norme. Par contre, si on fait l'addition, ben on s'aperçoit que...
Oui. Alors là, c'est pour l'aspect cumulatif. Mais à côté, il y a l'aspect cocktail dont vous avez tous entendu parler, parce que tout le monde parle de l'aspect cocktail. Mais attention, l'aspect cocktail, ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. C'est-à-dire que plusieurs pesticides, les uns à côté des autres, vont augmenter réciproquement leur effet. C'est-à-dire que 1 plus 1, ça ne fait pas 2. 1 plus 1, ça fait 3. Et ça, c'est une caractéristique, par exemple, des perturbateurs endocriniens. Ce sont les effets cocktails. Ce n'est pas systématique, attention, mais c'est fréquent. Et plus il y a de pesticides dans l'eau, plus il y a de pesticides dans les légumes, plus le risque d'effet cocktail est possible.
Donc pour les femmes enceintes, par exemple, qui consomment des produits tout faits, c'est la céphalone, dans les paquets, tout prêt, etc., conservé, est-ce que c'est pas une façon d'expliquer une augmentation des troubles du comportement des enfants?
Alors, comme je vous disais, l'alimentation est l'apport principal de pesticides. Et ensuite, vous avez quelque chose en matière de perturbation endocrinienne. Ce qui compte beaucoup, on a parlé des effets cocktails, des effets à très faible dose, mais ce sont surtout les périodes d'exposition qui sont très dangereuses. Et donc la grossesse et la petite enfance sont très dangereux. Et l'OMS a défini ce qu'ils appellent les 1000 premiers jours, c'est-à-dire cette période où on doit protéger les femmes enceintes et les enfants d'un certain nombre de polluants chimiques qui peuvent être des pesticides, mais qui sont aussi des plastiques, des bisphénols, des phtalates, tout un tas de produits qu'on retrouve dans les intérieurs à travers les colles, les agglomérés, les peintures et toutes ces choses. Et donc ça, c'est les femmes enceintes effectivement sont exposées, et une chose est très importante,
exposent leur bébé,
et on parle de bébé prépollué, et il y a un lien très très fort établi entre l'exposition des femmes enceintes aux pesticides et la survenue de tumeurs cérébrales chez l'enfant et de leucémie. Exposition des femmes, mais aussi des pères, et avant la conception. Et l'exposition des femmes, elle vient de deux situations. Exposition professionnelle, c'est-à-dire les femmes qui travaillent dans les serres, dans l'horticulture, voire les femmes d'agriculteurs, si leur mari fait rentrer des pesticides dans la maison avec via ses vêtements. Les femmes, elles sont exposées par
le travail qu'elles font, et par le mal.
Et aussi par l'utilisation des biocides en intérieur. Et la France est très particulière, parce que vous avez les pyréthrinoïdes, donc des insecticides de synthèse, qui sont présents chez quasiment 100% des Français, dans les urines, dans le sang, dans les cheveux, car nous sommes des grands amateurs d'insecticides domestiques, c'est-à-dire des insecticides pour tuer les moustiques,
les fourmis,
avec du fipronil, qui est un néonicotinoïde. Les chiens et les chats, on leur met du Frontline, qui est un néonicotinoïde, alors qu'ils sont interdits pour les cultures. On met ça sur le dos des chiens. Le chien se roule sur le tapis, la moquette, où le gamin va marcher à quatre pattes. Et ça, les insecticides, je l'ai déjà dit en début d'émission, en utilisation domestique devraient être interdits, car c'est très dangereux. Et les petits logos qu'il y a sur les boîtes ne suffisent pas. Il faudrait mettre une croix, de même que quand on met alcool, il y a une croix, ou tabac, il y a une croix. Mais là, les lobbies vont certainement tout faire pour qu'il n'y ait pas une croix sur ce type
de
produit.
Un dernier mot avant de conclure, qui fabrique tous ces pesticides ?
Eh bien, ceux qui fabriquent ces pesticides, ce sont des grandes entreprises qui fabriquent des pesticides. Bon, vous les connaissez tous, Bayer, BASF, Monsanto, Syngenta. On exporte même ces pesticides qui sont interdits en Europe, on les exporte en Amérique latine. Et ces entreprises qui fabriquent des pesticides fabriquent aussi, pour certaines, des médicaments anticancéreux. Donc la boucle est bouclée. Il n'y a pas de petits bénéfices dans ce genre d'industrie, parfois un peu cynique.
12h48, merci à vous deux d'être venus au micro de CFM. Cette émission, je vous le rappelle, vous pouvez la retrouver sur le www.cfm.fr à la rubrique podcast. On remercie Jean-Louis à la technique. Et on se quitte après que Casimir nous ait dit un dernier mot.
Alors, le 5 mars, nous aurons une émission santé avec le docteur Océane Voya qui veut nous parler des enfants et des problèmes liés aux enfants, les laits contaminés et autres. Et le 26 mars, les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire tout ce qui peut altérer la qualité de vie, et en ce qui me concerne, ce sera la fertilité et les perturbateurs endocriniens chez l'homme et chez la femme. Merci à la Mutuelle 50 qui nous permet de faire ces émissions.